La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez une excellente après-midi à l'écoute de France Culture. Après-midi qui se poursuit à présent autour de la vie et de l'œuvre de l'écrivaine Annie Ernaux. Annie Ernaux n'a jamais reçu le prix Goncourt, mais ses livres n'en sont pas moins à chacune de leurs sorties particulièrement attendue par la critique, et elle est devenue l'une des références de la littérature française d'aujourd'hui, l'une des représentantes de ce genre du récit de soi qui a fait florès ces dernières années en renouvelant la manière d'écrire à la première personne du singulier. Nous raconterons cela jusqu'à jeudi en essayant de mieux cerner ce moment littéraire dont la création actuelle est directement l'héritière. Nous le ferons en particulier demain avec l'universitaire Dominique Viard qui étudie justement cette littérature ultra contemporaine. Il nous parlera également des affinités de l'écrivaine avec la politique et de l'analyse bourdieusienne qu'elle fait de la société. Mercredi, il sera question de son livre La Place qui a fait connaître Annie Ernaux au grand public en 1984. Nous parlerons également des supermarchés et des villes nouvelles souvent présentes dans ses romans. Ce sera avec Pierre-Louis Faure. Enfin, jeudi, Bruno Blankmann viendra nous parler des chansons dans les romans d'Annie Ernaux, ainsi que notamment de son grand roman fresque intitulé Les années. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous n'allons pas, comme de coutume, vous proposer une émission à proprement parler biographique, même si nous tenterons de replacer certains grands repères de la vie d'Annie Ernaux, tout simplement parce que l'œuvre d'Annie Ernaux est tout entière bâtie sur la mémoire de sa propre vie et qu'il serait redondant de la raconter comme telle. En revanche, nous avons dans ce studio l'écrivaine et professeure de littérature Tiphaine Samoyo, qui viendra en seconde partie nous parler notamment de la question de la création et de la procréation qui sont liées, pense-t-elle, chez Annie Ernaux. Et puis en première partie, c'est la cinéaste Michèle Porte qui va nous proposer un premier regard sur l'auteur de La Place. Un premier regard qui pourrait d'ailleurs bien passer par la question des lieux.
D'abord, quand je suis arrivée à Cergy, puisque autant la nommer tout de suite, sa vie nouvelle c'est Cergy, je suis arrivée en 75, j'ai eu un grand choc. J'ai vécu en province toute ma jeunesse. Et ensuite, j'ai vécu en Normandie, ensuite j'ai été à Bordeaux, j'ai vécu 10 ans à Annecy, donc des villes, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et je suis arrivée donc à Cergy, en ville nouvelle, par obligation. Et j'ai été tout à fait désorientée. C'est-à-dire que je ne reconnaissais rien de ce qui fait les repères. Il n'y avait aucun passé. Et j'ai essayé immédiatement d'écrire un peu comme ça sur ce que je voyais. Et très curieusement, je ne notais que les constructions. Je ne voyais jamais les gens.
Bonjour Michèle Porte. Merci d'avoir accepté de venir parler aujourd'hui d'Annie Ernaux, à qui vous avez consacré un film intitulé « Les mots comme des pierres ». Ce film a été diffusé en 2013 sur France 3 et vous en avez tiré aussi un livre d'entretien publié sous le titre « Le vrai lieu » chez Gallimard en 2014. Un livre et un film qui commencent par l'évocation de Cergy Pontoise. Cergy Pontoise, la ville où vit Annie Ernaux depuis de nombreuses années et dont, disait-elle dans l'archive que l'on vient d'entendre, elle ne voyait au départ que les lieux et pas les gens. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle signifie par là, Michèle Porte ?
Oui, moi je comprends parce que tout mon travail repose là-dessus, sur les lieux. C'est ce qui me fascine, moi. Donc je comprends très bien qu'au début d'une rencontre dans cette ville, qui était une ville nouvelle d'ailleurs à l'époque, puisque c'est en 77.
Ça reste une ville nouvelle. Les villes nouvelles sont nouvelles éternellement.
Oui. Mais là, je dois dire que le Cergy où habite Annie ne fait pas beaucoup penser à la ville nouvelle.
Pour quelle raison ?
Ben, c'est une maison qui est une maison ancienne. Dans le quartier, c'est Cergy Village. Mmh. Avec un très grand parc autour, très protégé. Vous voyez, on est plutôt à la campagne que dans une ville nouvelle.
C'est une maison qu'elle compare à une glace à trois goûts, parce que il y a trois épaisseurs, une épaisseur de meulière, une épaisseur de crépi et une épaisseur de brique.
Oui, c'est vrai. Mais c'est une maison très agréable et le lieu est très 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 beau, avec une vue sur les étangs, sur l'Oise. C'est très beau.
Est-ce que vous avez compris quelque chose, d'Annie Ernaux, quand pour la première fois vous avez franchi le seuil de sa maison, quand vous avez visité peut-être aussi le jardin, quand vous avez vu l'endroit où elle travaillait, où elle écrivait?
Oui, ça me paraissait correspondre à quelque chose d'elle. C'est cette chose que j'aime beaucoup chez Annie, c'est une grande simplicité, elle est en sensibilité aussi.
Elle est
sensible, par exemple, cette maison, ce qui lui a beaucoup plu dès le début, elle raconte, c'est qu'il y avait des plantes dans le jardin qui ressemblaient aux plantes qui étaient dans le jardin de ses parents.
Mmh. Elle vit dans cette maison depuis de très nombreuses années.
Oui, là, en 77, je crois.
77. Et elle vit donc dans cette ville de Cergy-Pontoise depuis cette époque-là. Et régulièrement, on lui demande, mais alors Annie Ernaux, comment se fait-il que vous n'habitiez pas à Paris?
Oui.
Et alors, que répond-elle à cela?
Elle répond qu'elle n'habitera jamais Paris.
Pourquoi?
Parce qu'elle dit elle-même qu'elle est quelqu'un de déplacé. Et donc, elle est arrivée dans cette ville où il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de gens qui viennent de tous les pays, de toutes les nationalités. Et il y a quelque chose là qui lui plaît beaucoup. Mmh. Et Annie se sent déplacée, c'est le cas de le dire, quand elle vient à Paris. Comme elle se sent déplacée aussi dans certaines manifestations mondaines. Parce que ça correspond à rien pour elle.
Mmh.
Et ça, on le sent très bien quand on rencontre Annie. Toute cette chose qui fait que vraiment, moi je l'aime beaucoup, beaucoup. Et que ça correspond tellement à l'image qu'on a d'elle quand on la lit.
Donc finalement, la ville nouvelle, c'est un lieu où elle peut se sentir chez elle, plus que dans une ville qui serait trop chargée, histoire trop longue.
Oui. Quand elle a vécu une partie de son enfance et son adolescence, même plus que ça, à Yvetot. Et ce qui l'avait frappé, Yvetot, je suis allée avec elle, donc, puisque je suis allée dans ces lieux de son enfance. Et c'est une ville où se sentaient très fortement les différences de classe, sociales, différences sociales. Et il y a un Yvetot avec une très belle rue, avec de très belles maisons. Et c'était pas du tout là qu'elle vivait, c'était dans le quartier pauvre d'Yvetot. Qui d'ailleurs maintenant est devenu bien. Je pense que ça a beaucoup changé depuis son enfance. Mais on sent très bien que c'était... Les gens qui vivaient là, n'étaient pas les mêmes.
Donc encore une fois, les lieux sont particulièrement importants pour la compréhension d'Annie Ernaux.
Oui, je pense.
Ma mémoire commence là. Ma mémoire commence en passant, en déménageant, en quittant cette première maison, en quittant ce monde qui est lié aussi au monde de la guerre, le monde de l'occupation, le monde un monde confus, un monde de violence. Et on arrive à Yvetot d'une manière très pauvre, très très pauvre. Mes parents vivent dans une maison que leur a prêtée un frère de mon père, et c'est une maison en terre, Vous voyez, il n'y a pas de carrelage. C'est une pièce en terre avec une pièce à l'étage. Il n'y a plus de commerce et mes parents vont reprendre un commerce un petit peu plus tard. Et ce sentiment, donc, l'après-guerre a été très, très dur, en fait. On avait faim, on n'avait rien. Et j'ai gardé le souvenir, ma mémoire commence, c'est-à-dire que le temps de Lillebonne, le temps de cette maison au bord de la rivière, de cette effervescence, de la libération, etc., va devenir, c'est étrange à dire, mais devenir un peu le paradis perdu.
Entretien d'Annie Ernaux avec Olivier Germain-Thomas le 8 juillet 2001, Michel Porte. Donc la mémoire, on vient de l'entendre, c'est la matière première, et c'est d'ailleurs toute la semaine qu'on va pouvoir développer ce thème, c'est la matière première de la littérature d'Annie Ernaux.
Oui.
Et quand vous êtes allé sur ces traces, c'était pour réactiver d'une autre façon la mémoire. Comment cela s'est-il fait pour votre film, étant donné qu'elle-même ne cesse de réactiver dans chacun de ses romans la mémoire? Est-ce qu'elle n'avait déjà pas tout dit d'une certaine manière dans ses livres?
C'est différent. C'est une approche différente. Pour Annie, elle est persuadée, et ça, moi aussi je suis tout à fait persuadée, que la mémoire n'est pas dans les lieux. Mais il y a une mémoire des lieux, par contre. Et cette mémoire des lieux fait que, confrontée à eux, avec du temps, parce qu'elle n'était pas allée à Yvetot ni à Lillebonne 8 jours avant. Elle ne l'avait pas vue depuis plusieurs années. Et ça réactive les choses. Surtout les choses de l'émotion. L'idée que tous ces gens qui ont vécu là, ou ce qu'elle a vécu là, a disparu.
Mais ça réactive à l'oral, et c'est pas la même chose que de réactiver à l'écrit.
Non.
Parce que quand on est écrivain, ce qu'on sait faire le mieux, j'imagine, c'est d'écrire. Or là, elle devait vous parler.
Oui.
Et c'était très difficile, je pense, pour elle, de passer de l'écrit à l'oral pour raconter sa vie.
Je pense pas. Je pense qu'Annie a été au départ gênée par la caméra, impressionnée par la caméra, qui est là et qui écoute, qui parle pas, voilà. Et c'est une présence un peu gênante, enfin, c'est la bouscule. Mmh. Puis elle s'est très vite habituée, parce qu'on s'habitue très vite à ça. Et je trouve qu'elle a parlé très librement. Elle nous a beaucoup parlé.
Elle dit quand même, dans le livre, qui est donc la retranscription de ses entretiens, mais augmentée d'une certaine façon, parce que vous avez dû, pour la télévision, opérer un montage dans les entretiens, alors que dans le livre, vous pouvez laisser
tous les
entretiens.
Oui.
Et donc, elle dit qu'elle a été comme mise en demeure de parler, qu'elle s'est sentie comme mise en demeure de parler, tout en ne sachant pas très bien ce qu'elle pourrait dire. Et ça lui a rappelé quand elle passait son CAPES.
Oui. Vous
souvenez de ce moment de votre entretien avec elle?
Elle était devant les examinateurs du CAPES. Et là, elle était devant moi et devant Caroline Champetier, qui était à la caméra, et à l'ingénieur du son. On était tous les trois.
Donc elle avait peur d'être jugée comme par un examen, comme par des examinateurs du CAPES, par vous?
Et vous savez, ça, c'est très important pour moi, parce que j'aime beaucoup filmer les gens qui parlent. Il y a des gens qui disent, on peut pas filmer un visage pendant des heures, mais moi, je pourrais filmer les gens qui parlent pendant des heures. Parce que ça, c'est tout à fait encore autre chose que le livre qu'on a publié, Le Vrai Lieu. Le film, c'est autre chose. Parce qu'on voit vraiment comment quelqu'un cherche à dire le mieux possible, cherche à se souvenir, comment la mémoire se met à fonctionner, tout à fait autrement, librement. Et je trouve que ça, c'est tout à fait remplaçable. Et je regrette beaucoup que les éditions Gallimard, qui ont publié les entretiens, n'aient pas mis le film dans le livre.
Mmh.
Je pense que c'était un complément intéressant.
Alors, dans ce livre, on reparcourt donc avec vous un certain nombre de thèmes concernant la vie d'Annie Ernaux, qui est née Peut-être faut-il poser quelques jalons biographiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre 1940, à Lillebonne, on l'a dit, où elle a donc vécu jusqu'à ses 5 ans, c'est ce qu'elle considère un petit peu oui. comme son paradis perdu.
Oui.
Il faut dire aussi que c'est le second enfant de Blanche et Alphonse Duchesne. Or, ce premier enfant, cette première fille, elle a mis du temps avant de connaître son existence, Michel Porte, et vous en parlez avec elle dans ce livre d'entretien.
Oui, de la sœur qu'elle a eue, cette sœur aînée, la petite sœur avait 8 ans de plus qu'elle. Et ça, c'est un secret total. Ils n'en ont jamais parlé. Elle n'en a jamais parlé avec sa mère. Et elle l'a découvert tout à fait par hasard. Un jour, sa mère parlait à une de ses clientes devant la boutique à Yvetot. Et elle l'a dit, elle racontait à cette cliente, et ses enfants jouaient autour de leur mère. Bon, mais Annie, qui écoutait toujours ce que disaient les grandes personnes, parce que ça l'intéressait beaucoup, entendu sa mère dire « J'ai une fille, une autre fille, et elle est morte à l'âge de 6 ans de la diphtérie. » Et c'était, quand elle est morte, elle a dit qu'elle allait voir le bon Dieu et la Sainte Vierge. Enfin, c'était une petite sainte. Et elle a dit aussi, elle était beaucoup plus gentille que celle-là. Mmh. Et pour Annie, ça a été terrible. Et c'est une phrase qui l'a poursuivie beaucoup. C'est
là qu'elle a découvert. À tel point qu'elle a fini par considérer que si sa sœur était une sainte, elle était forcément le démon.
Oui. Ben oui. Et quand sa mère est morte, plus tard, elle était malade d'une maladie d'Alzheimer, elle a dit devant Annie, à son médecin, « J'ai eu deux filles. » J'ai eu deux filles et la première est morte de la diphtérie, alors qu'elle ne l'avait jamais dit, elle l'a jamais dit à Annie.
Parce que il y a dans la famille d'Annie Duchesne une sorte de culture du secret.
Oui.
Mais le secret dans cette famille-là, elle ne le vit pas forcément comme quelque chose de mauvais, Michel Porte.
Non. Parce qu'elle pense, connaissant sa famille, il y avait une grande violence physique chez eux. Il y avait des gens qui se disputaient violemment, il y avait, voilà. Et pour elle, le secret entre sa mère et elle, c'était nécessaire si elle voulait pouvoir cohabiter et vivre ensemble le mieux possible.
Alors...
Et donc, c'était la tranquillité, le secret.
Cet épisode de la sœur, Annie Ernaux l'a raconté dans son récit L'autre fille.
Oui.
On pourrait aussi préciser au sujet de cet épisode-là que avant même qu'elle ait connaissance de cette autre fille, par la conversation que vous venez de raconter, Michel Porte, elle s'était imaginé, Annie Ernaux, une petite fille qui serait son amie imaginaire. Elle lui écrivait des lettres. Il y a quelque chose de très troublant quand même là-dedans, vous ne trouvez pas ?
Oui, mais Annie avait imaginé comme ça une petite fille. Elle lui avait même donné le nom d'une cousine qu'elle n'a jamais connue, mais qui était une cousine, qui s'appelait Denise. Et elle écrivait à cette Denise, elle ne sait plus très bien ce qu'elle lui écrivait, bon. Mais après, elle a réfléchi et elle s'est dit que c'était peut-être l'histoire de la petite fille. Est-ce qu'elle le pressentait, cette histoire ? Je ne sais pas.
Parce que les secrets, finalement, même les mieux gardés, on finit par en avoir l'intuition.
Est-ce qu'elle en a eu l'intuition ? Je ne sais pas. Elle-même ne le sait pas.
Alors, dans cette... dans ce lieu, car les lieux sont très importants, où a grandi Annie Ernaux, c'est, au contraire du secret qui lie les êtres, la grande transparence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un café, c'est aussi un commerce, c'est aussi une habitation, une maison, et il n'y a pas de porte finalement entre tous ces lieux-là. Ce qui fait qu'on vit, et elle a vécu finalement sous les yeux des clients.
Ce qu'elle supportait très mal quand elle a été adolescente, elle le supportait très très mal. elle était obligée de rentrer chez elle, de traverser le café, de dire bonjour, ou traverser l'épicerie, de dire bonjour. Et quand elle ne le faisait pas, les parents n'étaient pas contents, les clients non plus. Et Annie, elle en avait marre de ça. Elle ne voulait plus, elle n'en voulait plus. Elle rêvait de vivre à l'hôtel plus tard, ou dans une grande maison.
Mmh. Ce qu'elle a donc réussi à faire, vous avez vu cette grande maison à Serge Pontoise.
C'est le rêve, c'est son rêve de toujours qu'elle est en train de vivre dans cette grande maison.
Alors, parlons un petit peu de ses parents, ses parents qui sont pour une grande partie la matière de ses romans, et en particulier de son premier roman, Les armoires vides. En voici un extrait.
Un monstre. Si encore il ne m'aimait pas. Ils n'ont pas grand-chose à me dire, mais ils m'achètent tout ce qui me fait envie. Des livres, un bureau, des étagères pour les livres. Elle arrive sur la pointe des pieds. T'aimerais pas avoir un fauteuil pour être mieux installé pour tes écritures? T'iras choisir toi-même. Des livres. Des livres. Elle y croyait. Elle m'en aurait fait manger. Elle les apportait, comme le Saint-Sacrement, entre les deux mains. Elle s'inquiétait. Tu l'as pas déjà, au moins? Elle avait l'impression de contribuer à mon avenir, à mon savoir. Elle voulait pas que je les salisse. Elle disait les respecter. Sans savoir que ces livres me fermaient davantage à elle, m'éloignaient d'eux et de leur café-épicerie, me montraient leur mocheté. Elle se pavanait. Tous les livres qu'elle a, d'abord elle veut que ça. C'était peut-être vrai. Le fauteuil, les étagères, ça restait planté au milieu d'autres meubles sans goût, sans style. Ça ne rachetait rien. Tandis que les livres, ça gommait tout. Salope, j'avais honte. De plus en plus. C'est pas vrai, je ne les haïssais pas. Quand j'allais à la boîte religieuse, je pensais à eux qui restaient à travailloter. Les casiers, les petits comptes, images grises. Je fondais. Papa, maman, les seuls qui s'intéressent vraiment à moi. Je n'ai qu'eux.
La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait des armoires vides lu par Bernadette Lange. Wanny Arnaud parle de ses parents. À quoi ressemblait Michel Porte l'éducation qu'a reçue par ses parents d'abord, Wanny Arnaud?
Ah mais c'était un couple, ses parents c'était un couple complètement atypique. C'est-à-dire que, comme elle le dit très bien, son père avait toutes les qualités qu'on pourrait être aux femmes. Et inversement, sa mère avait les qualités qu'on prête aux hommes.
C'est-à-dire d'un côté, une sorte de douceur, une envie de jouer avec les enfants
oui,
en permanence.
Il adorait les enfants, donc il jouait avec elle beaucoup. C'était un papa poule. Et sa mère, c'était tout le contraire. Mais sa mère a été sa première rencontre, disons, avec le féminisme.
Mmh. Sa mère était féministe.
Elle disait pas « je suis féministe », elle était féministe. Et c'est quelqu'un qui voulait faire ce qu'elle avait envie de faire, et elle supportait pas qu'on l'empêche de faire ce qu'elle avait envie de faire. Et ce que ça vienne d'une femme, d'un homme, de n'importe quoi, elle supportait pas l'autorité.
Et donc elle ne supportait pas l'autorité de son mari.
Oui, qui n'en avait pas du tout, d'accord.
Sauf... Quand poussé à bout, le mari se rebellait. Ce que Annie Arnaud aussi a raconté.
Ce qu'on suppose, quand Annie avait une dizaine d'années, un jour il y a eu une dispute violente entre ses parents. Apparemment c'était fréquent à cause du caractère de sa mère. Et elle a entendu appeler au secours. Elle a couru, elle savait qu'ils se disputaient, mais elle a entendu sa mère l'appeler. Et elle est descendue à la cave, et son père tenait sa mère près du billot où il y avait une serpe sur le billot. Et ce jour-là, elle a pensé que son père avait failli tuer sa mère. Mmh. Et ça a été un traumatisme terrible. Il a fallu attendre l'âge de 50 ans pour pouvoir en écrire.
Et elle a écrit ce livre qui s'appelle La honte, et qui raconte cette histoire.
Oui, oui.
Alors, la mère de Annie Arnaud, ce qu'elle lui a apporté quand même, c'est la lecture.
Formidable, l'écriture. Elle lui a amené la lecture et l'écriture. Vraiment.
Et puis...
Mais Annie était obsédée par la lecture. Parce que quand on l'a mise à l'école toute petite, elle avait 5 ans, 6 ans, je sais pas, elle est allée à l'école et elle était persuadée qu'en rentrant le soir, elle saurait lire. Mmh. Et puis ce jour-là, on l'a fait faire des bâtons. Elle a fait des bâtons. Et alors, elle ne savait plus comment raconter sa journée. Elle avait honte de sa journée. Et en revenant, elle a dit « Je ne sais pas lire, mais j'ai fait des bâtons. » Elle était désespérée. Donc, elle avait cette envie très forte déjà de lire, toute petite.
Envie de lire et puis envie de quitter Yvetot. Très rapidement, cette envie lui vient. Et pourtant, elle va, alors qu'elle rêve de Paris, finalement repousser beaucoup et peut-être repousser à jamais, parce qu'elle elle dit qu'elle n'entrera jamais dans Paris. Elle a cette formule dans votre livre. Mmh. Donc, elle a une fascination pour la capitale, une envie d'y aller assez jeune. Et en même temps, elle n'y va pas, Michel Porte.
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas, vous n'avez pas parlé de ça avec elle.
Pourquoi? Non, parce qu'elle n'est pas allée. Et c'est vrai qu'ils étaient, ils avaient des tout petits moyens. Donc déjà, elle quittait Yvetot. Elle était en pension à Rouen. Donc elle revenait tous les week-ends chez ses parents à Rouen. Et je pense qu'elle avait pas, on lui payait pas des voyages à Paris. Mm. Par contre, elle avait fait un voyage à Rouen avec sa mère avant d'y être étudiante. Donc pour elle, Rouen c'était la grande ville. Hein, c'était Paris, Rouen.
Et alors. Pour quitter la maison, finalement, c'est le mariage qui va d'abord se présenter à elle. D'abord les études, puisqu'elle entre à l'école normale d'instituteur, d'institutrice. Elle ne souhaite d'ailleurs pas y rester. Rapidement, elle va quitter cette
elle
école.
Elle va rompre son contrat avec l'éducation nationale, ce qui était quand même, à l'époque, bon. Et encouragée par sa mère. Sa mère lui a dit « Tu as raison, c'est pas ça que tu veux faire. »
Donc elle part en Angleterre au père pendant quelques mois.
Oui.
Et ensuite, elle se marie. Mais on ne sait pas si le mariage a été réellement une libération, Michel Porte. En tous les cas, peut-être oui pour le début, mais sans doute pas au fur et à mesure.
Il suffit de lire La femme gelée.
On va écouter justement un extrait de La femme gelée.
Oui.
Je déteste Annecy. C'est là que je me suis enlisée. Que j'ai vécu, jour après jour, la différence entre lui et moi. Coulée dans un univers de femmes rétrécies, bourrée jusqu'à la gueule de minuscules soucis, de solitude. Je suis devenue la gardienne du foyer, la préposée à la subsistance des êtres et à l'entretien des choses. Annecy, le fin de l'apprentissage du rôle. Des années bien nettes, sans une grand-mère pour garder l'enfant. Des parents qui vous soulagent de la tambouille de temps en temps par des invitations. Moi, rien. Du dépouillé, un mari, un bébé, un F3, de quoi découvrir la différence à l'état pur. Les mots maison, nourriture, éducation, travail n'ont plus le même sens pour lui et pour moi. Je me suis mise à voir sous ces mots rien que des choses lourdes, obsédantes, dont je ne me débarrassais que quelques jours, au mieux quelques semaines par an. Et la liberté, qu'est-ce que ça s'est mis à vouloir dire? Il y a eu le premier matin, celui où, à 8 heures, j'ai été seule dans le F3 avec le bicou en train de pleurer. La table de la cuisine encombrée par la vaisselle du petit-déjeuner, le lit défait, le lavabo de la salle de bain noirci par la poussière du rasage. Papa va travailler, maman range la maison, berce bébé et elle prépare un bon repas. Dire que je croyais ne jamais être concernée par ce refrain. Jusqu'ici, nous avions vécu de longs moments ensemble dans la journée. Il n'épluchait pas les patates, mais il était là. Les patates se faisaient plus gaies. Je regarde les bols, le cendrier plein. Quel silence à l'intérieur quand le bicou cesse de chanter. Je me vois dans la glace, au-dessus du lavabo sale. 25 ans. Comment avais-je pu penser que c'était ça, la plénitude ?
Ce mariage, donc, en 1964, qu'elle raconte dans La femme gelée qu'on vient d'entendre, ici, lu par Dominique Blanc, Michel Porte. Elle dira qu'entre 25 et 35 ans, au fond, elle a fait ce qu'on attendait d'elle. Et c'est après qu'elle va devenir, si l'on peut dire, réellement elle-même, Michèle Porte.
Oui, parce que pour quitter la famille, elle s'est mariée. Au début, elle croyait qu'il était comme elle, qu'ils se ressemblaient beaucoup, qu'ils avaient les mêmes idées, qu'ils avaient les mêmes goûts. Enfin, que c'est, bon, elle était très amoureuse. Et puis, peu à peu, ça devient, bon, ce que vous avez entendu, la femme jolie, c'était la vie, une femme mariée. Mmh. Et qu'est-ce que vous me disiez déjà après ?
Bon, c'était ça, à peu près, l'idée que quand elle va se libérer de ce mariage,
oui.
Elle va finalement pouvoir retourner à l'écriture.
Oui, elle avait déjà eu envie d'écrire, puisque quand elle était partie au père en Angleterre, elle a écrit un livre. Elle a écrit un premier livre qu'elle avait essayé de faire éditer, qui avait été refusé. Et elle ne s'était pas découragée. En fait, c'est intéressant parce que ce premier livre, c'est ce qui est repris différemment. Elle n'était pas arrivée à faire passer ce qu'elle voulait. C'est pour ça que ça avait été refusé. Et elle, c'est ça qu'elle a repris des années après, et c'est les années. C'est les années qu'elle a écrit.
Les années, un livre justement, elle a porté pendant des décennies entières. Merci beaucoup, Michèle Porte, d'être venue nous parler aujourd'hui d'Annie Ernaux, de commencer à raconter un petit peu sa vie. On va continuer à le faire en seconde partie.
J'aurais voulu dire une chose encore.
Allez-y.
J'aurais voulu dire pourquoi, moi, ça me plaît tellement, Annie Ernaux. C'est que je trouve que c'est quelqu'un qui écrit à partir de sa mémoire, et c'est une mémoire très affective, émotionnelle, sensible, et ce qu'elle a vécu, ce dont elle parle, c'est ce qu'elle a vécu. Elle parle jamais d'une chose qu'elle n'a pas vécue. Mais l'écriture vient là-dessus, tout, et un travail énorme d'écriture, que je trouve très, très formidable, où elle cherche le mot juste, où elle arrive, et qui fait qu'elle le fait passer, et qu'on le reçoit comme si c'était sa propre écriture. Et ça, c'est très important, je trouve.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et je ne saurais que trop encourager nos auditeurs à se procurer votre livre d'entretien avec Annie Ernaux, Le vrai lieu chez Gallimard, ou à voir ce documentaire que vous lui avez consacré. Pour ceux qui souhaiteraient vous connaître davantage, Michèle Porte, on peut également vous conseiller, on peut également conseiller aux auditeurs le livre d'entretien, où cette fois c'est vous qui êtes interrogé. Il s'appelle Michèle Porte, entre documentaire et fiction, un cinéma libre. C'est aux éditions du Bord de l'Eau, et ce sont des entretiens avec Jean Cléder. C'est le moment de la chronique de la mi-émission, la chronique que nous propose aujourd'hui Georges-Marc Habib. Vous êtes de retour, cher Georges-Marc, bonjour.
Et bonjour Mathieu.
Vous vous occupez toujours de la librairie de l'atelier rue du Jourdain à Paris. Alors parmi les livres qui sont arrivés dans vos rayonnages, Georges-Marc, il y a le dernier roman de Christine Montalbetti qui est précisément aux éditions POL. Ça s'appelle Trouville Casino.
Et voilà, Trouville Casino, le dernier roman de Christine Montalbetti, qui est parti d'un fait divers assez étonnant, d'un braquage du casino de Trouville en 2011 par un septuagénaire. Et donc, partant de ce constat, Christine Montalbetti, j'allais dire Annie Ernaux, mais pas du tout.
Vous êtes troublée par Michèle Porte, qui est à vos côtés.
S'est emparée donc ce fait divers pour en faire un vrai objet littéraire. Donc, de manière tout à fait minutieuse, elle va nous décrypter comme ça le quotidien de ce qu'elle peut imaginez dans le quotidien de cet homme, avant, pendant et après ce braquage, comment un homme de 70 ans, assez tranquille finalement dans sa vie, a pu arriver à faire cet acte incroyable d'aller braquer un casino avec une arme à feu. Elle entremêle son récit avec chaque chapitre est vraiment le lieu, l'heure et la date à laquelle ont lieu les événements, et elle entremêle le fait avec sa propre enquête où elle est revenue sur les pas de cet homme 5 ans après. Voilà un texte tout à fait étonnant mais tout à fait sensible qui vraiment illustre bien ce que peut être la littérature aujourd'hui.
Également le troisième livre de Céline Lapertot, édité chez Viviane Amy, il s'appelle « Ne préfère pas le sang à l'eau ».
Alors Chris, excusez-moi, Céline Lapertoux, c'est quelqu'un d'assez étonnant, c'est le deuxième roman que je lis d'elle. Là, dans celui-ci, elle nous envoie dans une vraie fiction, c'est-à-dire on est dans un monde complètement imaginé. Elle nous met en scène Carole, une jeune fille, une petite fille de 10 ans, qui va suivre avec ses parents et 300 autres de ses comparses. Elle va fuir son pays asséché, desséché, sans eau, pour essayer de trouver un lieu où s'abreuver. Ils vont se rendre dans ce petit pays qui s'appelle Kartimandoua, dans lequel a été construit un immense réservoir d'eau qui permet à chacun de pouvoir boire à sa soif. Et donc les Névers, puisqu'elle fait partie de cette population qui s'appelle les Névers, vont débarquer dans ce pays, accueillis tout d'abord, mais ensuite évidemment la place de l'émigré, de l'immigrant, est une place très difficile. Elle nous met en scène comment, suite au sabotage de cette citerne, les Névers ont été pointés du doigt, comment un fasciste a pris le pouvoir et comment la République et la démocratie du coup a été mise à mal à travers cet accident, et comment des gens qui ont fui la mort pour trouver la vie, c'est-à-dire trouver l'eau, se retrouvent condamnés par les mêmes gens qui les ont accueillis. Voilà un livre d'une actualité étonnante, mais là aussi dans une fiction très très bien construite.
Ne préfère pas le sang à l'eau, chez Viviane Ami, par Céline Lapertoux. Puis terminer, Georges Marc, avec un dernier roman qui s'appelle, on reste dans le thème de l'eau, hein, Un océan, deux mers, trois quotidiens. C'est par Wilfried Nsondé, c'est chez Actes Sud.
Et ben Wilfried Nsondé s'est emparé d'une figure assez incroyable de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais j'ai appris à connaître grâce à lui, de ce prêtre congolais du XVIe siècle, baptisé Don Antonio Manuel, mais né Nsaku Nevunda, qui a été consacré prêtre par les missionnaires portugais qui étaient installés au Congo à l'époque, et qui va être missionné par son roi, Alvaré II, pour aller voir le pape et demander au pape de combattre l'esclavagisme. Parce que Alvaré II s'est rendu compte que son peuple était en train de mourir, de dépérir à cause du trafic des esclaves, trafic que les Congolais eux-mêmes avaient mis en place à l'époque. Mais le côté international et la multiplication, on va dire, de ce trafic au niveau du monde, fait qu'aujourd'hui Alvaré II voit son peuple complètement dépérir avec ça. Donc c'est la traversée de l'Atlantique, aller et retour de ce prêtre qui nous est raconté là, la traversée de l'Europe, l'emprisonnement de ce prêtre par les intégristes, comment s'appelle-t-il déjà, l'Inquisition espagnole, son arrivée à Rome, au Vatican, c'est tout ça qui nous est raconté dans ce roman d'aventure, mais qui nous raconte bien plus, évidemment.
Un océan, deux mers, trois continents, Wilfried Nsondé, c'est chez Actes Sud. Merci beaucoup, Georges Marc Habib. Et puis, si on veut d'autres conseils, on peut aller vous voir directement à la librairie de l'atelier rue du Jourdain, métro Jourdain, à Paris dans le 20e.
Merci.
It's gonna rain tonight.
deuxième partie de cette compagnie des auteurs consacrée à Annie Ernaux. Nous continuons notre émission introductive avec vous, Tiphaine Samoyau, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît bien ici dans la compagnie des auteurs puisque vous venez régulièrement nous parler du journal en ligne En attendant Nado, à la place de Georges-Marc Habib. En attendant Nado, publication dans laquelle vous écrivez. Vous êtes également romancière, auteur de Bêtes de cirque en 2013 au Seuil, mais également essayiste. On vous doit une biographie de Roland Barthes en 2015, toujours au Seuil, puis vous êtes professeur de littérature comparée. Et surtout, c'est pour ça que vous êtes là, et bien vous aimez beaucoup Annie Ernaux et ses livres. Un mot peut-être sur ce qui a été dit en première partie par Michel Porte et que vous souhaiteriez peut-être compléter à votre manière.
Oui, peut-être sur le rapport à sa mère, comme l'a bien dit Michel Porte, c'était une femme sans doute féministe, avec les paradoxes aussi que cela suppose, parce qu'elle était aussi assez confite en dévotion, elle a mis sa fille à l'école privée, elle voulait pour elle une forme d'ascension sociale qui l'inscrive dans une sorte de modèle bourgeois du féminin. Et je pense que c'est tous ces paradoxes aussi qui ont créé la fille ou la femme qui est devenue Ernaux et le problème que pose le fait d'être cette fille et que l'écriture est en charge de traiter. Enfin,
oui. Elle aimait beaucoup s'habiller et prendre soin d'elle en tant que femme, mais c'était aussi en tant que quelqu'un qui se sentait dominé. Donc il y a peut-être quelque chose qui se rejoint ici entre le sentiment de la domination sociale et le sentiment de la domination des hommes sur les femmes.
Oui, alors, on a beaucoup insisté pour parler d'Annie Ernaux sur la question de la transfuge de classe. Bon, c'est une problématique qui peut concerner aussi bien les hommes que les femmes et qui a concerné énormément de personnes à cette époque. Je crois qu'on a recouvert un tout petit peu par cette problématique une autre question qui est celle en effet de la jeune fille dans ces années-là avant les émancipations qui vont advenir dans les années 60-70 où la jeune fille c'est celle qui attend d'être occupée en quelque sorte hein. Et je crois que l'œuvre d'Annie Ernaux met bien en scène cette espèce d'ouverture maximale de la jeune fille pour laquelle d'une certaine manière tout est possible comme pour n'importe quelle jeune personne mais qui au fond enfin, tout ce possible est rendu impossible parce que c'est impossible qui est celui de la pure occupation par la société, par les hommes, par les enfants. C'est une occupation par le corps des hommes, par le corps des enfants, qui est une occupation concrète, littérale. Et lorsque Michel Porte parlait de son agacement ou même de son insupportation d'être sous ce regard des hommes dans le café de ses parents, je crois que c'est surtout ça. C'est obsédant dans l'œuvre d'Ernaux, qui est une œuvre de la mémoire, mais qui est une œuvre qui cherche à répondre de manière très forte de ce que ça a été pour tout le monde, pour toute une société, et en particulier pour les femmes.
C'est toujours ce qu'elle fait, de raconter une histoire individuelle peut parler vraiment à toute la société française de l'époque. Oui. Et d'ailleurs, dans les années, c'est presque le paroxysme de cela, puisque l'individu passe derrière la grande histoire, la grande fresque de la France.
Alors attention, il ne s'agit pas de la grande histoire, mais il s'agit bien de l'histoire collective. Mais elle n'est pas forcément grande, parce que la grande histoire, la décolonisation, événements de ces années-là, est assez assourdie. Enfin, c'est une rumeur assez assourdie, même si elle est présente. C'est l'histoire collective, celle qui passe par les médias, par les chansons, par les publicités, par les produits, par ce qui fonde une forme de communauté faible, des liens faibles, et c'est ça, des liens qui vont disparaître et que la littérature a pour tâche de mettre au jour. Et sur cette question des filles, bon, il y a très peu finalement d'œuvres qui prennent en charge. Bon, c'est ce qui m'a frappé moi dans cette œuvre, le fait qu'est-ce que c'est que d'être une fille en fait. Hein, symboliquement, on a beaucoup écrit sur ce que c'était que d'être un fils, sur ce que c'était d'hériter. Mais de quoi hérite-t-on quand on est une fille, ou au fond finalement on passe d'une domination à une autre. C'est pour ça que le rapport à sa mère, c'est aussi un rapport de domination auquel il faut s'arracher.
Donc les jeunes filles sont les dominées parmi les dominés, alors ?
Oui, enfin en tout cas, il y a du possible, mais ce possible, il est constamment arrêté. Et d'ailleurs, bon, son dernier livre qui s'appelle Mémoire de fille est une synthèse de tout cela, puisqu'elle dit finalement tout ce que j'aurais écrit, c'est pour essayer de comprendre ce que c'était que cette fille de 58. Alors qu'est-ce que c'est la fille de 58 ? C'est évidemment la fille de 18 ans. Mais c'est pas simplement la fille de 18 ans, on n'était même pas majeur en 58 à 18 ans, c'est la fille qui va pour la première fois faire l'amour. Et donc pour la première fois, voilà, être occupée. Et cette question de la désoccupation, pour pouvoir écrire, elle est absolument primordiale. D'où l'importance de l'avortement, finalement, comme moment symbolique dans le parcours d'Annie Ernaux pour pouvoir écrire.
Alors justement, sur cette question de l'avortement, je vous propose d'écouter les premières pages des Armoires vides. Les Armoires vides, c'est le premier roman d'Annie Ernaux et il y est question en particulier justement de l'avortement.
Toutes les heures, je fais des ciseaux, de la bicyclette ou les pieds au mur pour accélérer. Une chaleur bizarre s'étale aussitôt comme une fleur quelque part au bas du ventre, violacée, pourrie, pas douloureuse. Juste avant la douleur, un déferlement de tous côtés qui vient cogner contre les hanches et mourir dans le haut des cuisses. Presque du plaisir. Ça vous chauffera une minute, juste le temps d'enfoncer une petite sonde rouge, toute recroquevillée, sortie de l'eau bouillante. Elle va se prêter, vous verrez. J'étais sur la table. Je ne voyais entre mes jambes que ses cheveux gris et le serpent rouge brandi au bout d'une pince. Il a disparu. Atroce. J'ai engueulé la vieille, qui bourrait de watts pour faire tenir. « Il ne faut pas toucher ton katsu, tu l'abîmerais ?» Crocheté, bousillé, colmaté, je me demande s'il pourra jamais resservir. Après, elle m'a fait boire du café. Elle n'arrêtait pas de parler. « Faut beaucoup marcher, oui, allez à vos cours, sauf si vous perdez de l'eau. » Au début, pas facile de marcher avec tout ce coton et ce tuyau qui ferraille le ventre. Descendre l'escalier, un pied après l'autre. Une fois dans la rue, j'ai été étourdie par les gens, le soleil, les voitures. Je ne sentais rien. Je suis rentrée à la cité. Vous aurez des contractions. Depuis hier, j'attends, levée autour de mon ventre, à guetter les signes. Qu'est-ce que c'est, au juste ? Je sais seulement que ça meurt petit à petit, ça s'éteint et que ça part. C'est tout. La tête à plat dans l'odeur de la couverture, le soleil qui me cuit des genoux à la taille, une marée tiède à l'intérieur, pas la moindre crispation en surface, tout se passe dans les plis et les replis à des kilomètres. Sans rapport avec les planches anatomiques. Je resterai bien jusqu'au soir, tout le temps, dans cette vague posture de yoga. Le soleil traverserait la peau, décomposerait les chairs et les cartilages. Rien à espérer, ça ne partira pas comme ça.
La compagnie des auteurs avec cet extrait des Armoires vides, lu par Dominique Blanc, Tiphaine Samoyo. Ça représente quoi, selon vous, cette question de l'avortement qu'elle a raconté à plusieurs reprises? Elle a même consacré un livre qui s'appelle L'événement à l'avortement. Ça représente quoi pour Annie Ernaux, selon vous?
Donc effectivement, c'est bon, déjà c'est un épisode traumatisant que ont vécu beaucoup de femmes à ce moment-là et qu'elles racontent, donc à un moment où ça se fait dans la clandestinité, où c'est extrêmement dangereux pour la santé des femmes. Donc elles racontent un épisode à la fois intime, mais qui a des résonances, comme toujours chez elles, du côté du social, du collectif. Donc il y a cela. Et ensuite, elle le symbolise aussi comme événement. C'est pourquoi quand elle le raconte dans l'événement, bien des années plus tard, c'est aussi l'étape par laquelle il a fallu passer pour s'affranchir ou pour s'émanciper, pour pouvoir à la fois écrire et d'ailleurs avoir des enfants. Elle le dit très bien, c'est-à-dire que à un moment, l'écriture et la procréation, le fait d'avoir des enfants soi-même, peut être vécu comme une rivalité. Et puis à un moment, ça peut être vécu comme une aventure, une très belle aventure des deux côtés. D'ailleurs, elle parle souvent de ses enfants ou de ses deux garçons. On n'a pas encore parlé du fait qu'elle avait eu deux garçons. Elle en parle comme les êtres pour lesquels elle pourrait donner sa vie. Mm-hmm. D'une certaine manière, elle en parle dans les mêmes termes que ceux qu'elle utilise pour évoquer l'écriture.
deux garçons qu'elle va avoir quelques années après cet avortement qui date de 1963. Qu'est-ce que ça permet alors exactement, cet épisode traumatique de l'avortement? Parce qu'il y a un moment dans la vie d'Annie Ernaux, qui est à peu près à ce moment-là, où finalement elle arrête d'écrire, elle ne va pas écrire pendant plusieurs années, et puis elle va revenir à l'écriture, elle va pouvoir procréer de nouveau, si je puis reprendre votre expression. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, selon vous, Tiphaine Samoyo?
Lorsque j'ai essayé de réfléchir à ça dans des articles que j'ai écrits sur elle, bon, il y a évidemment cette image qui est assez forte à chaque fois qu'elle traite de l'avortement, qui est l'image de la sonde. Et cette image, évidemment, elle peut aussi être symbolisée. Hein. Il s'agit, pour écrire, d'avoir cette capacité de sonder en soi, sonder dans sa propre mémoire, dans son propre passé, pour révéler un événement, pour le sortir justement de son intimité ou de son enfouissement. C'est sûr qu'elle est prise, lorsqu'elle a ses deux enfants, dans une rivalité concrète, hein, dans laquelle plein de femmes sont prises. Hein, c'est très difficile de pouvoir tout faire. Donc, effectivement, elle n'écrit pas à ce moment-là, mais je pense que les deux se font ensemble, conjointement, même si ça prend la forme d'une succession temporelle dans son existence à ce moment-là. En tout cas, elle écrit et elle publie son premier livre à 33 ans. Son deuxième fils, il doit avoir 2 ou 3 ans. C'est presque concomitant, en fait. Hein. Les Armoires vides, c'est un texte qu'elle publie voilà, à 33 ans.
Est-ce que vous diriez que, puisqu'on a parlé de la première partie de la vie de Annie Ernaux avec Michel Porte, est-ce que vous diriez qu'à partir de ce premier roman, sa vie va se confondre avec l'écriture, avec aussi l'enseignement, et puis avec un certain nombre de passions, dont les passions amoureuses? Est-ce qu'on peut dire ça, selon vous, pour parler de la seconde partie de la vie d'Annie Ernaux?
Oui, c'est-à-dire que l'écriture, c'est aussi un consentement à soi, à son intimité, donc un consentement aussi à sa liberté, à la liberté d'aimer, d'aimer passionnément, d'aimer bêtement, enfin toutes sortes de choses qui vont de pair avec cette émancipation, qui sont pas forcément toujours émancipatrices. On sait bien que la passion, c'est pas toujours émancipateur, et la façon dont elle en parle dans Passion simple montre bien que c'est pas toujours émancipateur, mais néanmoins il y a un consentement à soi au fait d'assumer ce qu'elle est, d'être une femme, d'être une fille, d'en parler. Et elle a libéré aussi beaucoup de femmes dans cette parole. Hein. C'est une œuvre, vous aurez sans doute l'occasion d'en reparler au cours de la semaine, mais qui a suscité énormément de réactions de tous bords, de tous milieux sociaux, de femmes qui écrivent à Annie Ernaux en disant « vous parlez de moi, vous parlez de ma vie », dont l'exemplarité a été saisie très très vite et par toutes sortes de gens, et qui tient aussi à la rigueur de son travail, parce que si j'insiste sur cet éthos de fille qu'elle met en scène, elle travaille son écriture de manière à lui faire porter une langue qui était celle de la fille de 58. C'est-à-dire qu'elle a beau faire des études, lire énormément, elle ne charge pas son écriture de tout son savoir. Elle écrit avec le langage de sa propre expérience.
Enfin, en tout cas, elle essaye de retrouver ce langage.
Oui,
et c'est peut-être ce qui crée cette forme d'apparente simplicité
sa langue. De travail.
Mais est-ce qu'on arrive vraiment, quand on sait beaucoup de choses, quand on a beaucoup lu comme elle, quand on a été enseignant de littérature, peut-on revenir finalement à un état qui était l'état antérieur?
Elle y parvient, c'est ça la très grande force. C'est autre chose, évidemment. Hein. C'est comme c'est autre chose. Mais elle parvient. Il y a un travail d'épure, hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fort d'arriver à cette épure à partir d'un espèce de plein qu'on va racler, évider, sonder encore, épuiser, que de partir de rien. Enfin, en quelque sorte, c'est un rien qui devient pratiquement cristallin. C'est extrêmement fort, et ça se voit lorsqu'on voit ses manuscrits. C'est-à-dire qu'elle barre tout ce qui pourrait avoir l'air d'être une image lettrée, elle dit toujours, j'écris des livres pour que mon père puisse les lire. Bon, son père qui est mort avant qu'elle eût publié quoi que ce soit. Donc.
Et ce qu'on gagne en rendant... il ne s'agit pas d'être accessible là, c'est quelque chose de beaucoup plus profond.
Oui.
Mais ce qu'on gagne dans cette écriture-là, est-ce qu'on le perd? Peut-être l'avez-vous vu sur des brouillons. Est-ce qu'on le perd d'une autre manière? Est-ce que ce qui est raturé, finalement, ça n'est pas aussi quelque chose qui aurait permis au lecteur d'atteindre une forme de poésie, par exemple?
Peut-être pour certains lecteurs ou certaines lectrices, pas pour moi. Moi, je suis pas fétichiste des brouillons, etc. Je pense que moi, ce qui me fascine, c'est ce travail de recherche où on sait qu'on veut arriver à dire quelque chose et voilà, on travaille de manière acharnée pour y parvenir.
Merci beaucoup Tiphaine Samoyo. Et oui, c'est déjà fini. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, je rappelle que vous avez écrit plusieurs articles sur Annie Ernaux, dont une contribution intitulée « Création, procréation » dans l'œuvre de Annie Ernaux au colloque de Cerisy de 2012, dont les actes sont parus chez Stock. On parlera beaucoup dans le cours de cette semaine de ce colloque de Cerisy qui a été extrêmement utile à la préparation de notre émission. Demain, nous recevrons Dominique Viard pour parler de la place de la littérature d'Annie Ernaux dans le paysage littéraire contemporain. Il sera également question de politique et aussi de sociologie. Tout de suite, la poésie, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie, bonjour à tous. Aujourd'hui, le Vocaluscrit, le voyez-vous, avec sa couverture bleu clin, témoin des manuscrits parlés de la poésie, lus et dites par les auteurs. Alors, à quelle occasion avions-nous usé du concept parler, écrire, le parler-cri? Nous répondrons demain à cette question. Le Vocaluscrit, c'est un ouvrage qui vient au secours de nos grandes interrogations. La poésie, à quoi bon la lire? Il faut-il le faire à haute voix ou la lire au-dedans de soi? 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes et demie suffiront pour quelques-uns des portraits poèmes écrits par Patrick Beurard-Valdois dans le Vocaluscrit, à commencer par celui de Jacques Dupin au musée Zadkine le 23 septembre 2004. Juste après tant d'années de distance déformante, sous-tendue par deux cannes anglaises, claudiquant, chauve crâne élargi, attendant son heure assis, 18h59. Il est l'heure, il dit « Bon, je commence ». Sa voix en ralentit. « Je n'ai rien écrit pendant 2 ans et m'y suis remis cet été. Mais dans quel état ?» D'une diction moins spectrale que naguère, la fin de vers en appui, suivie d'un silence rocailleux. Du surplomb des lunettes, son regard aigre-bleu calcaire fuse. Par-dessus la table qui tranche, ce corps intransigeant, il sollicite son nom lancé d'un rail d'acier, levant au loin le verre, immobile, comme debout, adossé au portail, appuyé sur la béquille d'une langue alitée d'où nous ferions signe en vain de la main. Autre portrait poème décrivant la concentration extrême du lecteur, celle d'Isabelle Garon dans Entrevue, Action poétique dernière le 5 juin 2012. Assez émotivement assise, l'un naturel, irlandais, qui sait, manches retroussées, pantalon lin, outre-mer à revers rouloté, entame en émots tout doux, la voix grimpante se trouve et se cadre dans le poème. Fermement ouvert, on devine tel fantôme soufflant dans les épaules, c'est là qu'elle s'enfuit du fauteuil, soudain noir monté, mouvante, corps en essor, elle oscille sur ses pieds, chevilles nues et le bas des jambes, le parquet craque à mesure le poème debout dans les talons. Entend-elle les chevrons de chêne vitrifiés au pas? Entend-elle nos souffles en balance découpés? Si dans l'angle, dans l'entre-porte mi-ouverte d'un battant et haute baie donnant sur les platanes gardiens du français, veste longue, t-shirt bleu, elle étend un œil félin tendu sur l'assistance, des textes jetés sont écrits en majuscules les paroles des poètes. Le livre à deux mains, les pages glissent et tourne d'un unique geste incliné, voix des mains, ton nom, Walter Benjamin, majuscule. Elle s'interrompt, s'assied, ayant vaincu, regard terrassant, éperdu, les traits tirés, les sourcils en circonflexe, paumes en croix, revenant de l'épreuve, agitée pendant les applaudissements, les lunettes pendues à la chevelure et regard haut vers le sol, silence d'après lire.
Merci Jacques Bonafé. Cette semaine, vous nous faites découvrir le Vocaluscrit de Patrick Berard-Valdois.